France Inter.
It's morning edition from NPR News.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Es.
Un jour dans le monde, c'est un jour dans l'Amérique des écrivains ce soir.
Je crois encore en la puissance du roman pour justement influer sur le comportement politique. Mais il y a une question de temps. Alors, je ne veux pas écrire l'élogie funèbre de la démocratie américaine.
C'est Don Winslow qu'on entend. Don Winslow qui était chez Nicolas Demorand, c'était en mai dernier, donc on est bien avant l'élection américaine. Et c'est ce jour-là qu'il nous dit que désormais il présente son dernier roman et que désormais il deviendra un activiste, et c'est ça qui a du sens pour lui. Bonsoir Julien Bisson.
Bonsoir Fabienne.
Vous êtes le directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1 et de la revue Légende. Dans son temps, pendant Trump 1, vous avez travaillé entre 2016 et 2020 donc pour la revue, fameuse revue America, qui a suivi avec les yeux des auteurs américains ces quatre dernières années. Et je me demandais justement si vous seriez capable de refaire une revue identique, parce que les auteurs parlaient de l'époque qu'ils traversent dans la première version, si je puis dire, et on les a si peu entendus ces derniers mois, en fait.
Oui, c'est vrai, ce serait plus difficile aujourd'hui de refaire America. D'abord parce qu'on pense qu'à la différence de Trump, on a fait un mandat, c'est très bien, qu'il ne faut pas refaire ce qu'on a déjà fait et en faire un deuxième. Mais surtout parce que les écrivains eux-mêmes ont un rôle différent aujourd'hui dans l'Amérique de Trump 2. Je veux dire par là que quand on a fait America il y a 8 ans, tout le monde ignorait ce qu'allait être cette période. On avait besoin de comprendre, on avait besoin d'expliquer, et les écrivains, on trouvait, étaient une très bonne porte d'entrée pour comprendre cette Amérique qui avait élu Trump, contre toute attente, et d'arriver avec eux à plonger justement dans cette Amérique inconnue, arriver à comprendre les mouvances sociales, les mouvances économiques, les mouvances culturelles à l'œuvre. 8 ans plus tard, j'ai l'impression qu'on a à peu près compris ce qu'est Trump. On a moins besoin qu'on nous l'explique. Malheureusement, on a trop bien compris et que les écrivains eux-mêmes sont peut-être moins là-dedans. Et puis, il y a aussi une forme de fatigue des écrivains face à Trump.
Est-ce que c'est une fatigue? Est-ce qu'on est résigné? Parce que voilà, la vague réactionnaire, elle est là, on n'y peut rien. C'est comme ça et c'est l'époque. Est-ce qu'on est tétanisé? Est-ce qu'on ne sait pas quoi écrire? À votre avis, c'est un peu tout ça à la fois?
C'est un petit peu tout cela à la fois. C'est-à-dire qu'il y a 8 ans, il y avait une très forte résistance à l'arrivée de Trump. Il y avait une volonté de pouvoir porter haut les couleurs de la démocratie menacée. Et on a l'impression que 8 ans plus tard, la démocratie l'est encore davantage menacée, mais que ces discours-là ont perdu de leur force. Ont perdu de leur force parce qu'ils ont été érodés par le temps, ils ont été érodés par 4 ans aussi de pouvoir démocrate, ils ont été érodés par la pandémie, mais ils ont été érodés surtout par l'habituation que nous avons pu avoir face à Trump.
Et parce qu'ils sont, parce qu'ils sont contre-productifs aussi peut-être, non? Est-ce qu'il y a eu ça chez les auteurs, comme il y a eu ça chez les acteurs, chez tous les chanteurs, etc., la pop culture? Enfin, ils se sont bien rendus compte. 2016, c'était Clinton qui a été soutenu à fond par Hollywood, par tout ça, plantage. 2024, la même chose avec Kamala Harris, plantage. Donc, il y a aussi un côté, moins on parle, mieux c'est finalement?
Je ne sais pas si moins on parle, mieux c'est, mais en tout cas, la façon dont on peut porter les discours, on voit bien, on l'a vu avec cette campagne, à une forme, c'est un petit peu inutile d'avancer je ne sais combien de stars américaines sur les pupitres des meetings. On a eu toutes les grandes stars internationales qui sont venues pour soutenir Kamala Harris, ça va, de Taylor Swift, dont on avait dit quand elle a publié son fameux post Instagram que ça y est, elle avait plié le match et que l'Amérique allait voter pour Kamala Harris.
Mais pas tant les écrivains pour autant.
Mais pas tant les écrivains. Dans les écrivains, les écrivains pèsent suffisamment trop peu en Amérique pour pouvoir être apportés dans les meetings.
Alors j'allais dire, est-ce que c'est ça aussi en fait? Parce que la société américaine, enfin des écrivains qui vendent énormément aux États-Unis et dont on peut dire qu'on les connaît, qu'on les identifie, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, disons les choses clairement, il n'y en a pas tant que ça. Que les Américains peuvent les connaître et les identifier, il n'y en a pas tant que ça. Est-ce que c'est ça aussi la raison au fond? Cette force-là, qui pouvait être celle des Paul Auster, qui pouvait celle des Toni Morrison.
Il y a une génération entière qui a disparu. Voilà. Il faut bien le dire, depuis quand on a lancé America en 2016, il y avait une génération qui était vieillissante et dont on voulait capter la parole. Et en effet, depuis 8 ans, Toni Morrison nous a quittés, Philip Roth nous a quittés, Paul Auster, Russell Banks. Ils sont nombreux, qui étaient ces écrivains qui avaient grandi dans l'Amérique d'après-guerre, où la littérature était encore le principal média culturel, et qui ont disparu. Ils n'étaient pas forcément tous grand public. Paul Auster n'était pas un auteur très grand public. Mais leur œuvre était capable de transcender les fractures culturelles de l'Amérique. Amérique, elles étaient reprises, elles étaient adaptées au cinéma. Il y avait quelque chose dans leur œuvre qui permettait d'arriver à parler au cœur des Américains. Aujourd'hui, cette génération disparue, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus là. Vous avez cité Don Winslow, je pense à Stephen King, qui a été, lui aussi, quand même, un très grand, qui a tweeté énormément, qui a écrit contre Trump.
Oui, c'est intéressant, hein, d'ailleurs, parce qu'il l'a beaucoup fait au début, il le fait beaucoup moins aujourd'hui, mais de la même manière, en fait. Genre, c'est bon, j'ai donné tout ce que j'avais.
Oui, il a l'impression, en fait, je pense, comme beaucoup, d'écrire toujours les mêmes textes, de toujours répéter les mêmes choses, d'avoir l'impression que tout cela est un peu vain, au final.
Après, c'est intéressant, parce que ceux qui vendent vraiment, moi, je pense à Colson Whitehead, par exemple, deux fois prix Pulitzer, je pense à Jasmine Ward, deux fois Book... comment s'appelle ce prix, déjà ?
National Book Award.
Ouais, National Book Award, absolument, ce qui est exceptionnel de l'avoir deux fois. C'est ça, la nouvelle génération des auteurs américains, qui vendent, qui écrivent, qui racontent leur Amérique, qui racontent très souvent l'Amérique noire. Jasmine Ward, par exemple, c'est Katrina, c'est toute cette période-là. Colson Whitehead, c'est New York.
Oui, et puis on peut parler de Ocean Vuong qui parle de l'Amérique queer. Penser à Tommy Orange qui parle de l'Amérique, de la lutte des Amérindiens. Il y a véritablement...
Mais ils sont dans leur Amérique, mais avec un pas de côté quand même par rapport à la politique, au fond. On est dans cette espèce d'entre-deux.
En tout cas, ils sont là pour porter des thématiques qui sont des thématiques féministes, antiracistes, pour les droits des Amérindiens, pour l'environnement. Je pense qu'ils jugent assez important de porter ces questions-là. Après, c'est aussi parce qu'ils portent ces questions-là qu'ils vont être honnis par les cercles trumpistes. C'est-à-dire c'est aussi... ils sont des porte-parole de l'Amérique wokiste qui est critiquée par les cercles républicains. C'est une véritable guerre culturelle qui se mène aux États-Unis, alors même que les critiques de cancel culture qui sont faites contre ces auteurs contre ce monde littéraire américain sont totalement ridicules quand on sait que les principaux endroits où on censure des livres, ce sont dans les États comme la Floride, comme le Texas, qui sont des États essentiellement républicains, majoritairement républicains, et où cette censure se fait.
On y était ici même dans cette émission hier, on était en Pennsylvanie, les livres interdits, c'est Des souris, des hommes, d'Hemingway, c'est...
Steinbeck.
De Steinbeck, pardon, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Lee Harper, c'est 1984, enfin on est quand même dans un sacré panel. Après je me demandais si on pouvait l'identifier, on pouvait les identifier aujourd'hui aux États-Unis, les auteurs de cette Amérique trumpiste, de cette ère trumpiste. On a reçu ici même un David Joy, par exemple, qui est l'écrivain des Appalaches, qui raconte les blancs déclassés. Mmh. Et on est un peu dans l'électorat de Trump, là. Est-ce qu'on sait l'identifier, l'écrivain qui raconte cette Amérique-là, cette nouvelle Amérique-là ?
Ah, c'est difficile parce que ce sont des... Il y a beaucoup... En effet, David Joy est un excellent auteur et je pense qu'il faut vraiment le lire pour essayer de comprendre ce qu'est cette Amérique vraiment... des hillbillies, c'est un terme très, très péjoratif, mais c'est vraiment les hillbillies de cette Amérique.
Employé notamment par le vice-président des États-Unis aujourd'hui, J.D. Vance,
qui avait revendiqué ce terme-là. Il y a vraiment des écrivains qui essaient de parler de... Ron Rash, par exemple, est aussi un très bon écrivain qui parle de cette Amérique des Appalaches. Il y en a d'autres qui vont parler. Richard Ford parle de l'Amérique du New Montana. Ils, eux-mêmes, ne sont pas trumpistes.
Ouais.
C'est très rare. Nous, quand on faisait America, d'essayer de dire, est-ce qu'on va trouver des écrivains pro-Trump ? Alors, la plupart des écrivains n'aimaient pas beaucoup Trump, et Trump, d'ailleurs, le leur rendait bien, il avait largement, notamment, coupé les fonds fédéraux pour la culture.
Mais vous pensez que, puisqu'on va rentrer dans une espèce d'ère qu'on appelle techno-réactionnaire, déjà, il y a des termes comme ça qui sont en train d'émerger aujourd'hui, qu'on peut aussi entrer dans une ère culturo-réactionnaire, c'est-à-dire, alors, il y a la littérature, bien sûr, mais il y a ce qu'on va voir émerger d'Hollywood, il y a ce qu'on verra dans la pop culture, là, ce qu'on verra dans les séries télé. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le domaine de la culture qui va aussi émerger de ce moment-là ?
On le voit déjà émerger. Il y a un nouvel Hollywood qui est en train d'émerger, un Hollywood conservateur. C'est dans la veine, alors c'était il y a longtemps la Passion du Christ, mais plus récemment le succès du film Sound of Freedom, par exemple, a montré qu'il y avait un public qui voulait qu'on lui raconte des histoires très conservatrices où toutes les nuances morales sont très claires, où on n'essaie pas de montrer les côtés sombres de l'Amérique, on veut raconter des belles histoires, c'est financé par des cercles conservateurs, et ça arrive déjà en Hollywood, à Hollywood, on ne l'a pas encore en France, à part, on a vu le film Marie il n'y a pas très longtemps.
On a vu Sound of Freedom, je crois, en France.
Sound of Freedom est sorti en France, mais aux États-Unis ça commence à prendre une place très importante, mais de certaine façon, ce qui est intéressant c'est de voir les personnalités culturelles qui ont soutenu Trump pendant cette campagne. On ne les connaît pas beaucoup en France, parce que ce sont des personnalités, je parlais tout à l'heure des grandes stars qui avaient soutenu Kamala Harris, ce sont des stars internationales. Ce qui est intéressant, c'est que les stars qui ont soutenu Trump sont des stars nationales. Les Roseanne Barr, les Joe Rogan...
Roseanne Barr, c'était une actrice très connue des années 80-90, sitcom.
Sitcom. Dr. Phil, présentateur de télévision. Joe Exotic, qui avait fait...
le fameux docu de Netflix.
Tiger King.
Exactement.
Ce sont toutes ces petites célébrités vraiment très nationales, très américaines.
Peur, je voudrais pas dire.
Un petit peu, bien sûr. Mais dans lequel une partie de l'Amérique se reconnaît. Parce qu'ils vont retrouver que c'est le cœur de l'Amérique, ça ressemble à l'Amérique, c'est aussi une vision assez traditionnelle des rapports hommes-femmes. Et donc, il y a aussi cette promotion d'une forme de cette forme de culture, promotion qui va être faite aussi, et c'est peut-être nouveau aussi dans l'ère qui arrive, avec la bénédiction des grandes entreprises de la Silicon Valley qui jusque-là pouvaient servir un petit peu de ceinture de sécurité et qui aujourd'hui, au contraire, va pouvoir participer à cette offensive culturelle.
Alors j'allais vous dire, Julien Bisson, puisqu'on parle beaucoup en ce moment, on parlait de techno-réactionnaires il y a un instant, de ce qui va se passer sur Facebook, ce qui se passe déjà sur X, est-ce que les grandes plateformes, les Netflix, les Disney, les Paramount, etc., vont se sentir obligés de le faire aussi au fond, ce virage-là, le virage à la Zuckerberg, en multipliant les productions dont vous parlez? Vous pensez qu'on est à deux doigts de ça ou pas?
Ça va être une des grandes questions des années à venir, parce que ça va vraiment forger un peu nos imaginaires. On a vu les grandes querelles qu'il y a pu y avoir pour Disney en Floride, quoi, avec le gouverneur de Floride Ron DeSantis. Jusque-là, ils avaient plutôt tenu bon dans la défense des valeurs qu'ils voulaient promouvoir. La grande question va être de savoir si derrière, après les grandes entreprises de télécommunication, après les grandes entreprises de la Silicon Valley, les entreprises aussi du divertissement et de la culture vont, entre guillemets, être mises au pas et vont commencer à obéir aux oukases de Trump. Ça va vraiment être une des grandes questions qu'il va falloir suivre dans les prochaines années.
Bah écoutez, on le fera en tout cas, et ensemble, pourquoi pas, Julien Bisson. Merci beaucoup. Vous êtes le directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1 et de la revue Légende. Merci vraiment.
Merci.
La suite, ce soir, c'est le reportage d'Un jour dans le monde. Ça se passe en Albanie qui s'interroge, tiens, on est presque dessus, sur l'interdiction de TikTok pour aller jusqu'à 19h. Sous les radars, Kevin Dufraîche.
Au Royaume-Uni, la ministre chargée de la lutte contre la corruption démissionne parce qu'elle est soupçonnée de corruption.
Le Monde à 18h50, c'est vous Franck Madon. Bonsoir Franck.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. On va essayer de décrypter un peu à la hâte ce qu'on sait de cet accord sur Gaza qui vient d'être confirmé par Donald Trump.
Et le cinéma en VO avec vous Corinne Pellissier. Bonsoir Corinne.
Bonsoir, on part au Brésil où tout le monde se presse pour voir le film autour des souvenirs de jeunesse de Walter Salles pendant la dictature militaire dans les années 70. Ça lui a valu déjà de nombreux prix.
Allez, à tout de suite tout le monde, restez avec nous. Nous repartons pour le tour quotidien de la planète en passant par le Maryland, États-Unis, donc on y retourne avec Cordae, Back on the Road, c'est sur la playlist de France Inter. Listen, I'm back on the road again, been popping them Xans, this shit just might be my demise. Too many ops out here that's posing as friends, these niggas gon' wear a disguise. Why you betray my trust? I thought it was love, but this shit doesn't come by surprise. Nothing is real as the same when you chase your dream, dog, you just gotta open your eyes. This world is a motherfucker, filled with all type of blood suckers. Put that shit on my blood, brother, ain't no worse feeling when you tryna run up a million, but they don't got no love for you. Where'd I love go when I showed them the utmost? Man, this shit is so cutthroat, that was my mistake. Boy, I won't make that shit again, never let niggas up close. So fuck fuck his mama too, this dedication, boy, I want the drama too. And I ain't gangsta at all, but I grill a nigga and step over you like Tyronn Lue. Quick pause, but this music industry be fucking niggas like a damn prostitute. Fuck 12, but shit, I could cop a few new cribs only with the highest view. I'm back on the road again, been popping them Xans, this shit just might be my demise. Too many ops out here that's posing as friends, these niggas gon' wear a disguise. Why you betray my trust? I thought it was love, but this shit doesn't come by surprise. Nothing is real as the same when you chase your dream, no, you just gotta open your eyes. I already told y'all, then I showed y'all. Blam, blam, then I drove off. Zans got me by the doors off. I ran out of Papa Zoloff. If he nosy, I'ma knock his nose off. If he holy, I'ma send his soul off. Trespassing, I'ma cut his toes off. Much faster than I cut my hoes off. If he ratting, I'ma cut his tail off. I'm Hugh Hefner with my robe off. One mic, zero flaws. Spitting 24 karat gold bars. To a gunfight, I bring a blowtorch. Spending new money to fight an old charge. No such thing as no charge. Been hot since the Cold War. I already told you, like Cardi. I done told you, you think this again, I bought the controllers. Purple the rain, let it fall in the soda. I've been dripping so long, got water erosion. Heart of a soldier, my nigga just had a daughter. I just went and bought her a stroller. My nigga just lost his father, I just went and bought her my shoulder. And I'm getting smarter and older. Call Mr. Carter the Yoda. We do this all for the culture. I bought a house in Miami. Fuck it, I'm lying, it's cheaper. I bought it in bulk. And my nigga just lost his mama. Ain't shit I can do, I just called him an
over. I thought that I told you, my nigga, the talking is over. I'm back on the road again, been popping them Zans. This shit just might be my demise. Too many ops out here that's posing as friends. These niggas gon' wear a disguise. Why you betray my trust? I thought it was love, but this shit doesn't come by surprise. Nothing is real as the same when you chase your dream, though. You just gotta open your eyes.
Le reportage d'Un jour dans le monde ce soir est en Albanie, où, comme dans de nombreux pays en ce moment, le réseau social TikTok est dans le viseur du gouvernement. TikTok est accusé d'espionnage aux États-Unis, vous le savez, surtout récemment, on n'est pas très loin de l'Albanie. TikTok est soupçonné d'avoir été un instrument d'ingérence lors des élections en Roumanie. Et l'Albanie, qui vote au mois de mai, y va sans trembler. Elle a décidé de bloquer pendant un an l'application, très populaire évidemment chez les jeunes comme partout. Le Premier ministre albanais reproche à l'algorithme de TikTok d'encourager la violence chez les plus jeunes, mais la mesure ne fait pas l'unanimité, c'est ce qu'on va voir à Tirana. Le reste, c'est Louis Seyé qui raconte.
Emmitouflé dans sa doudoune avec sa capuche sur la tête, Amarildo, 17 ans, attend des amis à la sortie de son lycée. Les yeux rivés sur l'écran de son téléphone, cet élève de terminale fait défiler des vidéos de voitures et des scènes de rue.
Voilà, c'est ça TikTok. C'est le réseau qu'on utilise le plus, nous les jeunes. T'as vu combien j'en ai reçu là ? 63 000. Là, c'est 2000. Ça dépend de la vidéo et comment elle devient virale, combien de gens la regardent. On met de la musique avec la vidéo et je montre où je suis et ce que je fais avec mes potes.
Fin décembre, le Premier ministre albanais a annoncé la fermeture prochaine de la plateforme chinoise. Une décision qui survient quelques semaines après qu'un élève de 14 ans a été poignardé à mort près d'une école de la capitale. L'affrontement fatal a eu lieu après un conflit sur les réseaux sociaux. Amarildo ne veut pas croire au blocage de son réseau social préféré.
Il ne faut pas qu'il ferme TikTok, parce qu'après on ne pourra plus regarder les vidéos et se divertir quand on a du temps libre. Moi je passe chaque jour 4 ou 5 heures sur TikTok et je regarde même des vidéos jusqu'au milieu de la nuit.
En Albanie, TikTok compterait plus d'1,5 million d'utilisateurs sur une population totale de 2,4 millions habitants. Avec ses vidéos ultra courtes, l'application y est devenue la principale source d'information de la jeunesse. Hortensia est une étudiante en droit de 22 ans.
Moi, pour me tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, je m'informe par TikTok. Mais après, je ne sais pas trop si les autres arrivent à bien s'informer sur TikTok. C'est vrai que pour les plus jeunes et les adolescents qui regardent des mauvais contenus, ce serait mieux qu'elle soit inaccessible.
Contenu violent ou inapproprié, soupçons d'ingérence chinoise, plus de 20 pays dans le monde ont déjà interdit ou limité l'accès à TikTok. En Albanie, la décision a été prise après une série de concertations avec les parents et l'administration scolaire. C'est ce qu'assure Mimi Kozeli, députée de la majorité socialiste.
Moi, résultant, il y a...
TikTok est un outil de communication sans filtre. Il rend accessible aux plus jeunes des scènes de violence qui deviennent partie prenante de leur éducation. Les familles nous ont demandé avec insistance de trouver un moyen de stopper l'accès des mineurs, notamment à TikTok.
Depuis son annonce, cette interdiction alimente les polémiques au sein de la société albanaise. Les partis d'opposition accusent le gouvernement d'entraver la liberté d'expression. Surtout que d'importantes élections parlementaires arrivent. Redi Muchi est l'un des militants du mouvement Ensemble, un parti de gauche qui dénonce l'autoritarisme du Premier ministre Edi Rama.
Des élections législatives ont lieu au mois de mai. C'est assurément une des raisons pour lesquelles le Premier ministre a choisi exactement ce moment pour interdire l'un des réseaux sociaux les plus utilisés par le public albanais. C'est de la pure censure. Car le Premier ministre contrôle les médias traditionnels et il peut manipuler les autres réseaux comme Facebook ou Instagram. Il choisit de bloquer le seul sur lequel il n'a pas d'influence.
Alors que l'interdiction de TikTok devrait entrer en vigueur dans les prochaines semaines, le gouvernement assure que ce blocage ne devrait durer qu'une année, le temps de trouver une solution technique pour empêcher son utilisation par les moins de 18 ans.
Louis Seyé pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne. Et nous sommes d'abord en Haïti avec ce chiffre colossal.
Oui, on l'évoquait brièvement dès hier soir à 19h. 1 million d'Haïtiens sont aujourd'hui considérés comme des déplacés à cause de la violence des gangs qui ravagent le pays et qui s'est intensifiée en 2024. C'est 3 fois plus qu'il y a un an, a détaillé Kennedy Omondi hier lors d'un point presse de l'Organisation internationale pour les migrations. Il parle d'un chiffre vraiment inquiétant. La moitié de ces déplacés sont des enfants. C'est surtout la capitale, Port-au-Prince et ses environs qui sont concernés. C'est là que les gangs sont les plus actifs. Les habitants fuient parce qu'ils ont peur, bien sûr, mais aussi parce que l'accès aux soins et à la nourriture est très difficile dans ces zones. Et puis cette crise est aggravée, selon l'OIM, par les expulsions de 200 000 Haïtiens en 2024, renvoyés au pays majoritairement depuis la République dominicaine voisine. L'OIM demande au pays de suspendre ces expulsions.
Nous sommes au Royaume-Uni où une ministre a démissionné.
Oui, Tulip Siddiq a finalement lâché l'affaire hier après quelques jours de polémique parce que son nom est cité dans des enquêtes pour corruption au Bangladesh, pays d'origine de sa famille. Tulip Siddiq est la nièce de Sheikh Hanissa, l'ex-première ministre autoritaire du Bangladesh, renversée l'été dernier. D'après des médias britanniques, la désormais ancienne ministre vivait à Londres dans un appartement donné par un homme d'affaires qui était lié au parti de sa tante, d'où l'accusation de corruption qui fait mauvais genre pour celle qui était secrétaire d'État aux services financiers et donc de la lutte contre la corruption. Tulip Siddiq se défend d'avoir commis toute infraction, mais estime que rester en poste serait une distraction, dit-elle, pour l'action du gouvernement de Keir Starmer, le Premier ministre britannique, qui a dit accepter, je cite, « avec tristesse cette démission ».
Enfin, c'est en Australie que nous sommes en plein grand chelem de tennis.
Oui, on en parlait dans le journal de 18h, l'Open d'Australie qui ouvre la saison. C'est la tradition, ce n'est pas vraiment une info sous les radars, me direz-vous. Vous êtes à peu près tous au courant. Mais saviez-vous qu'on peut regarder des matchs gratuitement sur YouTube? Et ce n'est pas une petite affaire, hein, puisqu'à l'exception de quelques grandes compétitions, le sport, c'est payant à la télé. Parfois, c'est très cher. Donc là, certes, c'est gratuit. Mais les rencontres de Novak Djokovic ou Naomi Osaka sont diffusées de manière un peu spéciale, puisque les joueurs sont remplacés par leurs avatars animés. Donc c'est le vrai match en direct, mais on a l'impression de regarder un jeu vidéo, un peu comme à l'époque de Wii Sport de Nintendo, pour ceux qui s'en souviennent, on jouait au tennis en agitant nos manettes. Deux raisons à cela. D'abord les droits, hors de question pour les chaînes qui payent pour l'Open d'Australie de laisser une diffusion gratuite sur Internet. Et puis du côté de l'Open d'Australie, c'est, dit-on, pour attirer un public plus jeune, comme les ligues nord-américaines de hockey et de basket qui ont déjà utilisé ce procédé.
Bah dites-moi, Kevin, merci beaucoup. Êtes-vous vraiment Kevin? Êtes-vous son avatar?
Laissez-moi vous pincer. Je ne réponds pas à cette question.
Vous partez avec un joli souvenir de 2007. Voici Moriarty, Jimmy, sur France Inter. A tout de suite.
Jimmy, won't you please come home? The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your Cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your Grandpa Jimmy is still gonna die. Now there's Buffalo Jim. Buffalo Jim, there's Jim Buffalo, not a didn't you know. Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette, and there's Buffalo Piss, and it's all kind of wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose, our Rosalie to roam with the buffalo.
Et Jimmy dans Un jour dans le monde. Allez, on fait forcément une étape à Gaza tout de suite dans Un jour dans le monde.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Esse.
Le 18-20.
Et bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir.
correspondant permanent de France Inter à Jérusalem. Thibault, bien sûr, l'accord de cessez-le-feu à Gaza est conclu, incluant la libération d'un certain nombre d'otages.
Oui, exactement, 33 otages, en tout cas pendant cette trêve qui est prévue sur les 42 prochains jours. 5 jours donc avant l'échéance, 5 jours donc avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. Un accord a donc été trouvé. On attend maintenant, Fabienne, l'annonce officielle. Elle devrait venir du Qatar, avec donc une conférence de presse organisée ce soir par le Premier ministre Mohamed Al-Thani. Et puis restons malgré tout prudents. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou doit convoquer le cabinet de sécurité. C'est le seul organe habilité en Israël à valider un accord et il ne l'a pas encore fait. Et c'est seulement ensuite que les modalités de cet accord pourront commencer à être mises en place. Les premières libérations d'otages sont envisagées pour dimanche, ainsi que les premières libérations de prisonniers palestiniens. Et puis pendant la première étape de cette trêve, pendant 42 jours donc, des Palestiniens pourront remonter dans le nord de Gaza, une zone vidée depuis des mois de ses habitants. L'armée israélienne se retirera des corridors de Netzarim au centre de l'enclave et puis de Philadelphie au sud pour occuper une zone tampon d'environ 800 mètres de large sur les frontières entre Gaza, l'Égypte et Israël. Et puis surtout, de l'aide humanitaire va être massivement déversée dans l'enclave en provenance d'Égypte et de Jordanie. Ça, c'est donc le plan ce soir sur le papier. Il va falloir observer de très près la mise en œuvre.
Thibault, merci beaucoup. On va vous retrouver évidemment dans quelques minutes dans le journal de 19h d'Amélie Perrier. Bonsoir Franck Madvon.
Bonsoir Fabien.
Il y a quand même encore beaucoup de zones d'ombre hein, dans cet accord, beaucoup de choses qu'on ignore.
Bah oui, d'ailleurs Thibault le disait à l'instant. Alors elles sont de plusieurs natures, hein, ces zones d'ombre. Elles portent d'abord sur la nature du retrait israélien dont parlait Thibault à l'instant. Depuis le début des négociations, c'est un problème majeur, vous le savez, pour le Hamas. Le mouvement palestinien demande à l'armée israélienne de retirer ses troupes de toute la bande de Gaza. Alors retrait, on l'a entendu, du couloir de Netzarim qui coupe la bande de Gaza en deux. Retrait aussi du couloir de Philadelphie dans le sud, mais ce sera évidemment une question dans les jours, les semaines à venir. En tout cas, le Hamas, qui avait besoin d'un accord pour tenter de survivre, aurait obtenu un retrait qui correspond à ses attentes, qui lui a permis en tout cas de signer un compromis. Deuxième incertitude, le timing. On ne sait pas en fait, Fabienne, à ce stade, à quel moment l'échange pourrait démarrer, à quel moment les premières libérations peuvent avoir lieu. Combien d'otages sont encore vivants? On suppose qu'ils Israël a obtenu des preuves de vie, mais on ne sait pas précisément combien d'otages vont être échangés contre des prisonniers palestiniens, combien d'otages vivants vont être échangés dans les jours à venir. Et puis, comment évidemment vont se dérouler ces opérations de libération? Il y a beaucoup d'incertitudes à ce sujet. Extrême prudence, on va dire, ce soir, sur la manière dont ces opérations vont se dérouler. En fait, un accord peut capoter à tout moment.
Après, ce qui est flagrant, Franck, c'est que c'est Donald Trump, quelques jours avant son investiture, qui annonce « nous avons un cessez-le-feu ». Nous avons un cessez-le-feu, c'est comme ça qu'il le dit.
Bah oui, c'est quand même assez dingue.
Nous avons un accord.
Il le dit sur son réseau, Truth Social. C'est donc le président élu qui communique avant le président en exercice, Joe Biden.
Qu'on n'a pas encore entendu.
Qu'on n'a pas entendu, absolument. On sait que les deux administrations, malgré tout, la sortante démocrate et l'administration qui entrera en fonction la semaine prochaine, ont travaillé de concert à un accord sur Gaza. Trump, lui, a exercé une forte pression pour qu'un deal soit signé avant son investiture lundi prochain, lundi 20 janvier. Il avait promis l'enfer, rappelez-vous, au Moyen-Orient, si les otages n'étaient pas libérés avant sa prise de fonction. Donald Trump veut un Moyen-Orient débarrassé de ses guerres avant de revenir à la Maison-Blanche, eh bien ce sera le cas. Accord de trêve au Liban, on le rappelle, cet automne. Chute de Bachar al-Assad en Syrie en décembre. Mmh. Et maintenant, donc, cet accord de trêve à Gaza.
Alors après, il y aura mille questions encore, hein, Franck Madvon, et notamment l'après-Hamas à Gaza.
Ouais. Alors c'est une question qui semble insoluble d'une certaine manière depuis le début des opérations israéliennes à Gaza en octobre 2023. Israël, vous le savez, voulait détruire le Hamas. Cet objectif, il n'est sans doute pas atteint. Enfin, on peut même le dire clairement, il n'est pas atteint. Il reste évidemment des milliers de combattants du Hamas dans l'enclave palestinienne. Un autre objectif d'Israël, qui en avait trois avec aussi la libération des otages, c'était de faire en sorte que l'État hébreu ne puisse pas subir une attaque comparable à celle du 7 octobre. Israël va donc sans doute vouloir des frontières de Gaza complètement hermétiques. Les pays impliqués dans les négociations, les États-Unis, l'Europe, les pays arabes, ont envisagé une sorte d'autorité intérimaire faire sous supervision internationale, mais tout ça est encore très, très incertain à ce stade. Et puis en tout cas, on voit mal Israël déserter totalement la bande de Gaza dans les jours, les semaines à venir.
Voilà, donc l'après-Hamas à Gaza, l'après-Gaza tout court, le sort des otages, y a-t-il encore des otages vivants? À quel moment les choses vont pouvoir se mettre en place et comment? Il reste encore beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Bien sûr, on y reviendra très largement tout à l'heure dans le journal de 19h avec Amélie Perrier et puis à suivre aussi dans les éditions de France Inter. Merci beaucoup, Franck Malvon.
Moteur. France Inter. And the Oscar goes to... Un jour dans le monde.
Le cinéma en VO, comme chaque mercredi, et Corinne Pellissier. Corinne, il a battu les records de fréquentation. Tous les blockbusters du Brésil, il a remporté plein de primes au Strat Venise, Golden Globe. Aujourd'hui, vous nous parlez de « Je suis toujours là » de Walter Salles sur le thème de la dictature militaire au Brésil, inspiré d'une histoire vraie autour d'une femme en lutte pour connaître la vérité après l'enlèvement de son mari dans les années 70.
Ouais, énorme succès pour cette histoire que le public est aujourd'hui curieux de s'approprier, car dans les manuels scolaires au Brésil, le traitement de la période reste assez floue. Les assassinats, la torture, les enlèvements d'étudiants, de syndicalistes ou de politiques commis pendant la dictature militaire n'ont pas toujours été racontés. À commencer par cette histoire, celle de Rubens Paiva, ancien député de gauche, enlevé chez lui à Rio en 1971 par des hommes du régime et que sa famille ne reverra jamais. Le film est tiré d'un livre écrit par l'un de ses fils que Walter Salles a bien connu lorsqu'il était adolescent. Il était ami avec ses quatre frères et sœurs et ce qu'il retient à leur contact, eh bien, c'est la lumière qui se dégageait de cette famille en contraste avec l'époque.
Elle offrait la possibilité de vivre sous dictature militaire dans un autre pays. Cette maison était une maison où les discussions politiques jaillaient de tous les côtés. La musique de la Tropicalia, donc une musique qui s'inventait à ce moment-là au Brésil, était très très présente. Et c'est ce que le film épouse dans la première partie. C'est vraiment un film sur une famille pour qui vivre avec cette intensité-là était une forme de résistance. Et ça, on l'a compris le jour où le père a été amené à un interrogatoire dans des lieux militaires. Et ce moment-là a défini un avant et un après dans toutes nos vies. En fait, c'est le Brésil qui a subi cet acte de violence. C'est des milliers de familles qui ont subi cet acte de violence. C'est un projet de pays aussi qui a été dérobé.
Cette lumière perdue à laquelle fait référence Walter Salles est l'un des points forts du film, décrit très bien d'ailleurs les grandes tablées, les dîners joyeux, le tourne-disque dans le salon où on s'amuse, on rit, on danse sur la Tropicalia. Le résultat à l'écran est magique, on a absolument envie d'être avec eux, c'est très beau, très lumineux, jusqu'à l'arrivée brutale des militaires dans la maison qui marque évidemment un tournant dans le film. La deuxième partie est axée sur le combat de l'épouse de Rubens Paiva pendant 30 ans pour obtenir la confirmation de sa mort. Épouse incarnée par la comédienne Fernanda Torres, récompensée pour son rôle dans Golden Globes, on ne peut plus mériter.
Et alors l'intérêt du public, Corinne, se mesure aussi à travers la résonance du film dans l'histoire récente du pays.
Le Brésil de Jair Bolsonaro, que Walter Salles n'avait pas vraiment prévu au départ de documenter. Le projet du film a été initié bien avant le retour de l'extrême droite au pouvoir, avec un sujet cadré, défini dans le temps, la dictature militaire au Brésil de 64 à 85. Pas tellement raconté, en fait, jusqu'ici au cinéma, contrairement à ce qu'ont fait les voisins du Chili ou de l'Argentine. Mais pendant le tournage, eh bien, il a fallu se rendre à l'évidence.
Tout ce qui entourait un peu la société brésilienne à ce moment-là changeait de température à une vitesse inouïe. Et la montée de l'extrême droite nous a fait comprendre que le film était absolument un film sur notre présent. Eu cheguei de muito longe. E a viagem foi tão longa. Une des premières choses que les gouvernements d'extrême droite dans le monde essayent de faire, c'est de déstructurer l'éducation ou la culture en général. Donc il faut rester optimiste et il faut surtout donner des reflets de ce qu'on est en train de vivre, hein, de telle manière à ce que les choses ne soient pas oubliées. Et j'aime bien cette idée qu'un film commence quand les lumières se rallument dans la salle. Et c'est un peu ce qui se passe en fait avec le film, c'est qu'il génère vraiment ce flot d'idées sur qui nous sommes, sur quelle société on veut être, c'est le plus beau cadeau qu'on pourrait imaginer.
Avec une VO magnifique et aussi disponible sur les plateformes de streaming.
Je suis toujours là, signé Walter Salles, et donc au cinéma ce mercredi. Corinne Pellissier, merci beaucoup, à la semaine prochaine.